57 km sous les Alpes, c'est la longueur du futur tunnel ferroviaire qui doit relier Lyon à Turin, dans les Alpes franco-italiennes. Entre la France et l'Italie, donc, il doit permettre aux trains de voyageurs et de fret de circuler sous les montagnes, comme s'ils étaient en plaine. Pour ses promoteurs, c'est un maillon indispensable en Europe pour transporter les marchandises sur rail plutôt que sur route. Mais pour ses détracteurs, en revanche, c'est une gabegie financière évaluée à 26 milliards d'euros tout de même et un danger écologique aussi. En attendant, ce projet européen lancé il y a 30 ans ne devrait pas voir le jour avant au moins une décennie. Et en France comme en Italie, l'opposition s'organise. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Pierre Isnard-Dupuis réalisé dans la vallée de la Haute-Maurienne.
Bonjour à tous, bienvenue au Bourget. Le mouvement a commencé il y a à peu près une semaine, j'allais dire le mouvement récent. Et il est vrai que quand on a commencé ce mouvement en bloquant les toupies de béton qui devaient alimenter le chantier de Telt, eh bien, on n'imaginait pas en arriver là aujourd'hui.
Nous sommes à l'entrée du village du Bourget, dans la vallée de la Maurienne, en ce dimanche 4 septembre, au pied d'un rocher d'escalade. Et il y a près de 200 manifestants qui sont rassemblés en contrebas, avec beaucoup d'élus, en écharpe tricolore, bleu, blanc, rouge pour les députés, les sénateurs et eurodéputés français. Et puis vert, blanc, rouge pour les maires italiens du Val de Suse.
Je vais vous demander peut-être de vous reculer un tout petit peu pour que vous puissiez voir, parce que nous sommes au Rocher des Amoureux. Il faut que vous regardiez en fait le sommet du Rocher des Amoureux. Allô, allô, là-haut, au-dessus du rocher, si vous m'entendez, si vous nous entendez, allez-y.
Et là, il y a des grimpeurs qui sont en train de déployer une banderole sur laquelle il y a marqué « Ensemble ». Et avec le logo des luttes de part et d'autre de la frontière, Lyon-Turin, non. Côté français, Notav, le célèbre slogan italien.
Bravo! Merci! Grazie! Voilà, je crois que c'est un superbe clin d'œil pour l'unité entre les notaves italiens et puis les non au Lyon-Turin, les stop Telt français.
Ils veulent stopper Telt. Telt, c'est la société binationale du tunnel euralpin Lyon-Turin, chargée par les États français et italiens de percer un tunnel ferroviaire sous les Alpes de 57 km de long. Depuis 30 ans, en Italie, le mouvement notave, qui signifie non au TGV, manifeste jusqu'à pratiquer des sabotages de chantiers. Présence d'amiante et de radioactivité dans les déblais, béton sur des terres agricoles, ils dénoncent notamment des atteintes à l'environnement. Plus timide, le mouvement côté français se réactive. Avant d'entendre ces acteurs, nous allons nous rendre sur le chantier. Une descenderie de 4 km de long plonge sous le village du Bourget pour atteindre les niveaux du futur tunnel, 500 mètres plus bas, à 600 mètres d'altitude. Les explications d'Emmanuel Imbert, directeur à la construction chez Telt.
Donc le tunnel de base, c'est un tunnel, comme son nom l'indique, qui est situé à la base de la montagne, qui comprend deux tubes et qui fait une longueur d'à peu près 57,5 km. Deux tiers côté France, un tiers côté Italie, donc 45 km en France, 12,5 km en Italie. Le tunnel est décomposé en différentes sections.
C'est creusé par morceaux, en fait, pas d'un bout à l'autre.
C'est ça. En fait, on a différentes attaques. On a les attaques des deux têtes et on a un certain nombre d'attaques intermédiaires. Une à Saint-Martin-la-Porte, une à Lapra, une ici à Villerodin-Bourget-Modane et une en Italie à Chiomonte. Et donc, en fait, on va construire l'ouvrage à partir de chacune de ces attaques dans chacune des directions.
Est-ce que vous avez une motivation particulière à participer à ces travaux ?
En tant qu'ingénieur, c'est toujours particulièrement intéressant de participer à un projet de cette envergure, un projet européen, un projet qui a une vocation aussi bien économique qu'environnementale. C'est quelque part une grande infrastructure pour l'Europe de demain.
Qui permettrait quoi, cette infrastructure ?
La vocation même du projet, c'est de favoriser en fait le transport ferroviaire. d'organiser en fait le report modal vers des modes beaucoup plus respectueux du climat. L'ambition du Lyon-Turin, c'est de capter un trafic entre la France et l'Italie et d'organiser un report d'environ 1 million de poids lourds depuis la route vers le rail. En fait, l'essence même du projet, c'est quelque chose qui est très similaire à ce que nos voisins suisses ou autrichiens ont fait, que sont les tunnels de base du Lötschberg, le tunnel de base du Gotthard, le tunnel de base du Ceneri ou le tunnel du Brenner qui est également en construction. Le principe, c'est en fait de dire que on a des infrastructures qui existent. Ici, il existe un tunnel ferroviaire, mais ce tunnel ferroviaire, il est en montagne, il est à 1270 mètres d'altitude. Le principe même de construire le tunnel de base, c'est, de, comme son nom l'indique, de le construire à la base de la montagne. Évidemment, on comprend bien qu'un tunnel qui est plat, qui est rectiligne, avec des pentes douces, des virages adaptés au transport ferroviaire, sera nettement plus efficace qu'une voie de montagne qui aujourd'hui montre ses limites et ne permettra pas en fait, d'avoir une infrastructure de grande capacité.
Le 15 septembre au petit matin, à la sortie de Modane, ville frontière de 400 âmes, nous rencontrons une vingtaine d'habitants qui distribuent des tracts. Parmi eux, Micheline, qui vit au village du Bourget.
Fin août, on a bloqué des toupies de béton qui étaient censées faire une dalle de 2 mètres sur un puits de ventilation. Donc là, bon, le premier jour, ils ont fait demi-tour. Le deuxième jour, la gendarmerie a interdit aux camions de passer. Et le troisième jour, on s'est fait prendre une amende. Et le cinquième jour, on s'est fait évacuer par les CRS.
Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous mettre sur la route pour empêcher des camions de passer? C'est quand même un geste fort.
Ben, en fait, franchement, ça fait 10 ans qu'on fait des réunions publiques, qu'on informe, qu'on fait des concerts pour expliquer le Lyon-Turin, etc. Et ce jour-là, on reçoit l'information à 20h, comme quoi à 5h du matin, 30 camions toupies passeraient dans le village. Là, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase un peu trop plein. Il y a eu un pas de passé, ça nous a fait du bien aussi. On a libéré un pas qu'on n'avait jamais osé passer et ça nous a fait du bien.
Est-ce que vous, Micheline, vous seriez mobilisée de telle façon si les camions ne passaient pas dans votre village?
C'est-à-dire, vous avez raison de poser la question, c'est une évidence hein, que quand on n'a pas la problématique sous les yeux, on s'en informe moins. Nous, la bascule, elle s'est faite en 2002 quand on a perdu l'eau. Et là, on s'est renseigné sur le projet. Voilà.
Vous avez perdu l'eau, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a perdu la source qui alimentait le village. D'accord. Et le fait de l'avoir sous les yeux, c'est ce qui nous a fait prendre conscience.
Il n'y a plus de tracts. Il y en a pas tout le monde.
Montez là. Philippe Delhomme est professeur d'histoire géo au Collège de Modane et coprésident de l'association Vivre et Agir en Maurienne. Il nous emmène à flanc de montagne pour nous décrire les atteintes à l'environnement qu'il perçoit dans le paysage.
Donc là, on est sur la commune d'Avrieux, un lieu touristique très connu qui s'appelle la cascade Saint-Benoît. Donc il y a un ruisseau qui forme une très belle cascade.
On la voit qui se disperse souvent là.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment très très beau, ouais, c'est très recherché par les gens. Il y a même d'ailleurs un film qui a été tourné ici, c'est Les Rivières Pourpres. Et en fait, cette cascade, en fait, elle est en sursis, tout comme le ruisseau, parce que dans un rapport de TELT qui date de 2017 sur les impacts sur les cours d'eau et sur les eaux souterraines, TELT dit clairement en fait, qu'il y a des risques importants d'assèchement et de tarissement de sources et de ruisseaux. Et le Saint-Benoît, d'où la cascade Saint-Benoît, fait partie de ces ruisseaux qui sont possiblement asséchables par le percement de l'éventuel tunnel.
Moi, je vais vous laisser reprendre un peu votre souffle là, parce que le sentier monte. Philippe Delhomme, avec votre association Vivre et Agir en Maurienne, vous avez organisé un rassemblement le 4 septembre. Vous avez expliqué à cette occasion-là que par le passé, vous aviez été convaincu de ce projet Lyon-Turin.
Alors, c'était dans les années 1999-2000, à la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc le 24 mars 1999 avec 39 morts.
France 2, 26 mars 1999.
L'actualité de ce jour marquée également par la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Le bilan de l'incendie reste provisoire, sans cesse revu à la hausse. Selon les Italiens, il y aurait 35 victimes. L'incendie qui, depuis 3 jours, ravageait le tunnel a été éteint en fin d'après-midi. Voyons d'abord la situation du côté italien. Olivier Théron, Frédéric Besson.
À 16h, grâce à une excellente collaboration avec les sapeurs italiens, le feu était considéré comme éteint. La température est retombée à 80 degrés. elle était encore de mille hier soir par endroits.
Là, je pense que c'était un véritable choc. Et puis le choc deuxième est l'arrivée massive, puisque le tunnel du Mont-Blanc était fermé, de milliers de camions dans notre vallée. Donc ça a augmenté les risques d'accidents, mais également la pollution, le bruit, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2001, on a rencontré le ministre des Transports de l'époque, qui s'appelle Jean-Claude Guessot, qui est venu à Villars-Rodin-Bourget, qui est venu à Modane, pour nous rassurer, parce qu'évidemment, on manifestait beaucoup, on était véritablement tous à demander du ferroviaire. Et on nous promettait donc le Lyon-Turin. Et on s'était dit, pourquoi pas, c'était une solution. Et on nous promettait qu'en 2015, le tunnel donc de base du Lyon-Turin serait ouvert. Nous sommes en 2022, il n'y a encore rien de fait.
Et aujourd'hui, ce serait 2032, voilà, 2033, ouais,
exactement.
Potentiellement.
Pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? Mais parce que petit à petit, on s'est rendu compte que d'abord, ça demandait beaucoup de temps. On ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas la ligne existante. On a les possibilités aujourd'hui, avec la ligne existante, de faire tout de suite du ferroutage, du transport de marchandises combiné. Faisons-le tout de suite. Et ça coûterait beaucoup moins cher, ça n'amène pas de dégâts. Et c'est simple, en fait. On voit bien les deux zones de chantier, donc sur Villars-Rodin-Bourget. La zone la plus éloignée, donc qu'on appelle la zone des tierces, là qui est entièrement déboisée.
Vous estimez qu'il y a combien d'hectares là?
Là, il y a 17 hectares en fait d'endroits, dont à peu près une dizaine d'hectares de forêts qui ont été entièrement détruites pour justement entreposer des déchets du futur tunnel s'il avait lieu. Et en dessous, on voit il y a une zone très très blanche. Là, c'est l'ancienne zone d'expansion de l'Arc, une zone humide qui était occupée essentiellement par des jardins des habitants. Cette zone-là, aujourd'hui, était surélevée de 5 mètres pour faire une vaste zone de chantier. Et en fait, cette partie-là, donc c'est 400 000 mètres cubes de déchets qui ont été sortis pour creuser la galerie de reconnaissance sous le village de 4 km. Et sur la grande zone-là de 17 hectares, ils vont entreposer 4 millions de mètres cubes de déchets. On va être embêté par le bruit, par la poussière, par la dévastation pendant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Donc, à Villars-Rodin-Bourget, on pourra dire adieu à notre vie quotidienne, etc., mais également au tourisme. Qui voudra venir faire de la montagne ici? Qui voudra venir faire du ski dans une zone de chantier comme ça? On est en train, en fait, quelque sorte, de tuer la haute vallée. On va détruire un paysage de montagne.
Pour Philippe Delhomme, le tunnel et ses accès fonctionnent comme un dangereux siphon qui vidange les nappes phréatiques et modifie la circulation de l'eau dans la roche. Il appuie son point de vue sur une étude de TELT ainsi que sur un document du Bureau de recherche géologique et minière qui alertait TELT il y a un an. L'analyse des géologues de l'État détaille l'imprécision du protocole de suivi de la plupart des points d'eau et note, je cite, « quelques situations d'incohérence entre la prévision des impacts et les impacts réellement observés ». Au début des années 2000, Le Bourget a dû se trouver une autre source d'approvisionnement en eau potable. Lyon-Turin Ferroviaire, la société qui a précédé TELT, reconnaissait alors la responsabilité du chantier et a payé le nouveau raccordement. Aujourd'hui, du côté de chez TELT, Emmanuel Imbert, le directeur à la construction, se veut rassurant et assure qu'il n'y a pas d'atteinte à l'eau potable.
La question de l'eau est une question importante. Elle est importante pour nous également, puisqu'on suit de très très près tout ça. Nous, on fait le suivi quotidien, le suivi mensuel de tous ces réseaux-là. On regarde de très près tout ce qui peut se passer. Et si jamais il se passe quelque chose, on réagit. Heureusement, on n'a pas eu d'événement important ou d'incident important. Le caractère de drainage qui est évoqué du tunnel, c'est un ouvrage souterrain est réalisé avec des venues d'eau. Les tunnels suisses drainent aussi une partie de l'eau comme c'est d'usage. Et pour autant, les tunnels suisses n'ont pas vidé les Alpes de toute leur eau. Donc nous, aujourd'hui, on a choisi d'avoir un tunnel qui reprend les mêmes principes que les ouvrages similaires qui sont réalisés en Suisse, où on observe les mêmes phénomènes de drainage.
Les conséquences environnementales du chantier, on les voit ici dans le paysage. On voit une zone boisée assez importante en face, où d'après mes informations, vous allez entreposer des matériaux qui seront sortis de la construction du tunnel. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque part, Emmanuel Imbert, que l'environnement des habitants ici est en train de changer? C'est quand même impressionnant, cette modification dans le paysage.
Donc, ce que vous évoquez, c'est la zone déboisée qui est située au-dessus de toute la plateforme industrielle de l'ONERA, qui est en contrebas de la station de la Norma, c'est ça ?
Oui, tout à
où
fait.
Où on voit justement les couloirs de ski notamment, les bâtiments d'habitation, d'hébergement. Moi, je vois aussi un certain nombre de prairies ici qui ont été rendues à l'agriculture justement dans le cadre du projet. Vous évoquez une déforestation, moi je vois plutôt un paysage beaucoup plus global. Le fait d'avoir un site de dépôt juste en face, ça a beaucoup d'avantages également. Ça permet de limiter les transports, puisqu'on va transporter les matériaux au moyen de bandes transporteuses. On a des équipes, des correspondants en fait, qui sont en contact permanent avec les communes, avec les associations de riverains, justement pour échanger sur l'organisation des travaux, sur les phases qui vont venir, pour informer, pour expliquer et pour répondre à des inquiétudes qui peuvent avoir lieu et pour faire en sorte que tout ça se passe le mieux possible.
Et pourtant, il y a des habitants de la vallée ici qui manifestent.
On a observé effectivement des manifestants en fait, qui se sont positionnés sur la voie publique. Ça nous a perturbés dans l'organisation des différentes opérations, mais très très vite en fait, les autorités ont rétabli la circulation publique pour tous.
Qu'est-ce que vous en pensez sur l'exaspération de ces habitants ?
Nous on prend acte, on accompagne, on explique, on dialogue sur ces sujets-là.
Plus globalement, les opposants dénoncent une gabegie pour une infrastructure qui leur paraît inutile alors que les possibilités de ferroutage existent déjà dans la région. Dans un rapport paru en 2012, la Cour des comptes française s'interroge elle aussi. En plus du tunnel transfrontalier, il faudrait réaliser d'autres tunnels sous les massifs alpins français pour une longueur cumulée totale de plus de 100 km. Et pour un montant que la Cour des comptes évalue à 26 milliards d'euros. Opposant depuis une décennie, l'économiste Daniel Ibanez, membre de l'association Les Amis de la Terre, souhaiterait que le tunnel existant du Mont-Cenis soit utilisé au maximum de sa capacité, alors qu'à l'heure actuelle, il ne voit circuler que 20% du fret qui y passait dans les années 90.
Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas transporter des marchandises par le train. C'est ce que nous réclamons, et d'ailleurs on a fait tout un travail que l'on présente régulièrement pour démontrer que c'est possible. Mais c'est possible sur la voie existante, qui permet de faire circuler les marchandises d'environ 1 million de poids lourds. Donc on peut sortir dès aujourd'hui 1 million de poids lourds avec la ligne ferroviaire existante, et sans aller dévaster les territoires, sans aller tarir les sources, sans assécher la partie de la montagne où serait creusé ce tunnel. Et donc c'est simplement une question de bon sens, de préservation de l'environnement et surtout de l'utilisation rationnelle de l'argent public. Parce qu'on est en train de parler de milliards d'euros. On peut considérer qu'il nous faut dépenser 30 milliards d'euros, avoir une ligne extrêmement performante, etc., etc. Mais on ne sait toujours pas utiliser comme elle l'était dans les années 80 et dans les années 2000, la ligne ferroviaire existante. Et donc, la question, c'est que non, on ne porte pas atteinte ni à l'environnement et on ne dilapide pas l'argent public lorsque on a déjà un outil que l'on peut faire travailler. Et, cerise sur le gâteau, la Fédération nationale des transporteurs routiers a signé avec nous une lettre à la ministre des Transports pour lui dire « Madame, mettez à notre disposition des navettes de transport ferroviaire, nous les utiliserons dès aujourd'hui sur la voie existante. »
Et sur la question des voyageurs, on peut imaginer, puisqu'on a des TGV qui vont de Paris à Milan, qui passent par cette vallée. Déjà aujourd'hui, on pourrait imaginer un temps de parcours plus court qui inciterait peut-être plus de monde à prendre le TGV plutôt que l'avion entre Paris et Milan.
Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'effectivement, faire une ligne à grande vitesse permettrait d'aller plus vite. Mais juste pour rapporter les choses à leur juste mesure, aujourd'hui, de la même manière, avec le train existant, avec les voies existantes, on peut le faire en 5h30 Paris-Milan. 5h30 pour faire 900 km, on peut considérer que c'est encore raisonnable. Mais de fait, on le fait en 7h. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête 9 fois. Vous ne vous arrêtez pas avec un nouveau projet à 30 milliards, vous le faites en 4h15. Je veux bien qu'on nous explique que pour gagner 1h15, il faut dépenser 30 milliards, mais il va falloir que ceux qui prétendent ça mettent leur garantie personnelle sur ce financement. Sur le tunnel sous la Manche, vous savez qu'il y a des petits actionnaires qui ont acheté. Là, comme par hasard, là, ils n'ont plus envie d'avoir des actionnaires. Vous avez des actionnaires, bien sûr, se sont fait pigeonner une fois, ils ne vont pas revenir une deuxième fois. Donc finalement, on trouve que ça serait mieux que ce soit l'État. Et donc, ce sont les contribuables. Il y a quelque chose d'indécent à vouloir faire une ligne soi-disant à grande vitesse pour gagner une heure et quart à 30 milliards d'euros.
Reportage donc signé Pierre Isnard-Dupuis du collectif Presse Papier. Merci également à Antoine Chao de France Inter.